Je vous invite à ouvrir la parole dans deux passages qu'on va lire dans 1 Jean, chapitre 5, 17 à 21. 1 Jean, l'évangile de Jean. Ah non, il n'y a pas de... Si, 17, pardon. 1 Jean 17. Pardon ? 1, c'est l'épître. Ça va pas ? Ah, 1 Jean 17, non, 1 Jean 5, mais verset 17, pardon. Non, il n'y a pas de 17 chapitres. Désolé. Toute injustice est un péché. Et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas. Vous le saviez, ça ? Hello ? Je vous parle là. Je viens de lire une chose. Nous savons, donc je voulais savoir si vous savez. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas. Vous le saviez, ça ? Oui ? Non ? Quels sont ceux qui ne savaient pas ? Levez la main. Soyez honnête. Ça veut dire que si vous êtes né de Dieu, vous ne péchez pas. Ah, il y en a qui... Hein ? Qui sont honnêtes, là. Hein ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la parole de Dieu est ment ? Alors, ça veut dire quoi ? Mais ça veut dire qu'il y a des choses qu'on n'a pas compris. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc, vous voyez, ça, c'est l'enseignabilité du disciple. Être enseignable, accepter... de recevoir un enseignement. On ne sait pas tout. Mais la parole de Dieu nous interpelle, c'est-à-dire qu'elle nous bloque dans notre élan en disant « Mince, là, j'ai pas compris, j'ai besoin de comprendre. » Donc c'est très important de comprendre. Bon, ce ne sera pas l'objet de ma prédication ce matin, mais on en a déjà parlé, on en reparlera. Mais nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas. Donc c'est une vérité très importante qui conduira un certain nombre d'actions, de comportements dans notre vie chrétienne. Mais, alors attention, il y a un mais, donc vous voyez, ça veut dire que c'est une vérité qui est sûre, puisque c'est la parole de Dieu qui nous le dit, mais il y a un mais, donc il faut en tenir compte du mais. Mais celui qui est engendré de Dieu le garde et le malin ne le touche pas. Alors moi j'ai pas compris du tout ce verset-là, alors j'ai dit, là il y a un truc que moi je comprends pas. Donc j'ai pris le grec, enfin l'original, même si je parle plein de grec, il y a des moyens d'accéder à la compréhension du grec. Et en fait la traduction qui me semble la mieux appropriée, c'est celui qui est engendré de Dieu se garde lui-même. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec ce qui est traduit là. Comme quoi les traducteurs, parfois, ne traduisent pas, enfin, ne nous permettent pas toujours de bien comprendre la parole. C'est pour ça qu'il faut creuser la parole. Hein. Donc je relis. Pardon ? Il y a une traduction qui va dans ce sens-là, c'est ça ? Ouais. Ah ben voilà, je ne sais pas qui c'est André Hubert qui a traduit, non ? Oui, non, je plaisante. Oui, non, mais j'ai beaucoup cherché là. Pardon ? Voilà, ça c'est les Bibles Summer, non ? Français courant, oui. Oui, les traducteurs en français courant, ils essaient de mettre à portée de compréhension les choses, quoi. Parce que Second, c'est un théologien du début du XXe siècle. Hein. C'est un très très bon, voilà, et reconnu, hein, la théologie, enfin le. Bible Second. Mais bon, il faut être un peu érudit pour la comprendre. Hein. C'est un français voilà, qui nécessite une réflexion. Donc le français courant, et je vous propose en français courant, qui veut dire la même chose, mais voilà, en français compréhensible, celui qui est engendré de Dieu se garde lui-même. Ça veut dire quoi ? Est-ce que ça veut dire que nous sommes Dieu, sinon nous sommes tout-puissants ? Non. Mais ça veut dire que nous avons une responsabilité, pour rejoindre ce que disait Olivier ce matin dans un autre registre. En tant que chrétien, nous sommes responsables de ce que nous croyons. C'est-à-dire que Dieu nous donne, un don de ne pas pécher, hein, quand nous sommes nés de nouveau. Mais, en même temps, il nous demande de collaborer, c'est ce qu'on appelle collaborer, c'est-à-dire travailler avec Dieu, travailler avec Dieu, vous voyez. Donc ça veut dire que voilà, le chrétien n'est pas quelqu'un de passif, voilà, il reçoit Jésus, voilà, et une fois il reçoit Jésus, voilà, c'est fini, c'est fait. Non, c'est que Dieu nous demande de collaborer avec lui, avec son esprit, pour atteindre un but, un objectif, voilà. Alors je continue, verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est au pouvoir du malin. Alors là encore, un pavé dans la mare, là. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Le monde entier est sous le pouvoir du malin. Donc ça veut dire qu'on est piégé, quoi. On est dans le monde, donc il faut sortir du monde. Alors effectivement, c'est les monastères. C'est les premiers monastères, ils sont apparus dès le 1er siècle. Hein. En Égypte, les Coptes et tout ça, ils ont dit non, 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 le monde, c'est pas bien. Il faut qu'on sorte du monde puisque le monde est au pouvoir du malin. Le problème qu'ils ont découvert, et ça, c'est la vie monastique, hein, d'ailleurs, ça s'appelait pas monastique, ça s'appelait un truc comme ça, voilà, je sais plus. Voilà, mais c'est la vie recluse, donc ils allaient dans le Sahara, enfin, là, c'était facile à trouver en Égypte, voilà, très loin, et le dimanche, ils venaient dans l'église locale où ils faisaient partie, et puis ils repartaient, ils prenaient une grosse miche de pain, et puis le pain et de l'eau, et ils mangeaient, et puis ils revenaient. Ils étaient tout seuls, hein. C'était pas un monastère de 50 personnes, c'était tout seul, dans une case. Et ils se mettaient un jet de pierre de l'autre case, pour voilà, plus loin qu'un jet de pierre, en fait, pour vraiment qu'ils puissent être seuls. Voilà. Et en fait, qu'est-ce qu'ils ont découvert? Si vous lisez cette époque, puisqu'on a des traces de ces vies monastiques, qu'est-ce que vous découvrez? Ah ben que c'était à l'intérieur d'eux qu'ils trouvaient le problème. C'est-à-dire qu'en fait, ils voulaient se séparer du monde, et en fait, en eux, ils trouvaient qu'il y avait des combats qu'ils n'arrivaient pas à résoudre. Parce qu'effectivement, le monde est aussi en nous. C'est ça le problème. Ils ont découvert une chose importante, c'est que même si vous fuyez complètement tout seul, en fait, à l'intérieur de vous, parce qu'il y a le péché. Il y a le péché. Alors d'un côté, on dit, ben, la parole de Dieu dit, nous ne pouvons plus pécher. Puis de l'autre côté, on découvre que le péché est en nous. Voyez, même étant chrétien. Parce que c'est des gens vraiment saints, purs, enfin tout ce que vous voulez. Ils sont séparés de ce qu'on appelle du monde, enfin de la vie mondaine. Eh bien, c'est parce que c'est notre âme. Notre âme a besoin de se soumettre à l'esprit. Notre âme, notre vie, nos pensées, notre intelligence, ce que nous sommes biologiquement. Cette partie-là doit collaborer avec l'esprit. Donc il y a une réforme à faire. C'est pas que dans l'église qu'il faut des réformes. C'est pas Luther et Calvin qui doivent faire des réformes. C'est nous, chacun dans notre vie, nous devons faire des réformes. Voyez-vous ? Nous sommes interpellés pour nous réformer. Nous devons tous être des réformés. Voilà. Donc le pouvoir entier, le monde entier est au pouvoir du malin. Verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître celui qui est le véritable, et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Alors, c'est un peu comme une cerise sur le gâteau, là. On pensait avoir compris là, des choses profondes de Paul, puis d'un seul coup, paf, il prend la cerise, là, il la met sur le gâteau, il dit, voilà, très bel enseignement, et puis gardez-vous des idoles. Mais qu'est-ce que vous aimez faire, là? Moi, je me suis demandé, j'ai dit, pourquoi d'un seul coup il arrête, enfin, c'est pas Paul, c'est Jean, hein, pourquoi il arrête, voilà, sur ce verset, petits enfants, gardez-vous des idoles. Ça veut dire que Jean a compris par-dessus tout son enseignement qu'il nous laisse à l'Église, que les idoles, c'est un problème important. Alors, allons dans les Actes des Apôtres, au chapitre 17. Au verset 16 à 18. Alors là, il s'agit de Paul. Hein, Paul qui voyage en Asie mineure. Et là, il est à Athènes. Hein, Athènes, donc en Grèce. Et comme Paul, verset 16, les attendait à Athènes, il avait en lui-même l'esprit exaspéré. Donc il devait être en colère, hein, à l'intérieur de lui-même, en contemplant cette ville vouée aux idoles. Or, il faut savoir qu'Athènes, la capitale de la Grèce à l'époque, était la ville, disons, artistique, la ville, voilà, la plus en vue du point de vue de la littérature, des choses artistiques, enfin, du sommet de la civilisation grecque. Et pourtant, elle est vouée aux idoles, d'après Paul. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et ceux qui craignaient Dieu, et sur la place publique chaque jour avec ceux qui s'y rencontraient. Quelques philosophes épicuriens stoïciens se mirent à parler avec lui. Les uns disaient « Que veut dire ce discours ?» et d'autres disaient « Il semble être un prédicateur de divinités étrangères. » Cela parce qu'il annonçait la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Voilà, donc Paul s'aperçoit que dans son époque, dans la civilisation dans laquelle il est, eh bien, cette ville était vouée aux idoles. Je voudrais reprendre, pour essayer de terminer, dès que possible, cette série sur l'idolâtrie, parce que je n'avais pas fini. Je vous avais parlé de pas mal d'exemples d'idoles personnelles, en prenant des exemples bibliques, pour vous montrer justement que les personnages de la Bible n'étaient pas parfaits en eux-mêmes, à part Jésus. Abraham était idolâtre de son fils, Isaac. Jacob était idolâtre de qui? Si vous vous rappelez, de Rachel. Et Léa était idolâtre de qui? De son mari, Jacob. Zachée était idolâtre de quoi? De l'argent. Naaman était idolâtre de quoi? Du succès. Du succès. Hein, c'était le deuxième personnage de la Syrie. Et voilà, il ne voulait pas s'abaisser auprès d'un prophète qui lui demandait de se baigner dans l'eau du Jourdain. Et c'est la petite fille esclave, qui était esclave chez lui, qui l'a raisonné. Et il a accepté de se soumettre à la demande du prophète. Et le dernier que j'ai abordé, mais que je n'ai pas fini, parce qu'il est beaucoup plus dur à comprendre, c'est Jonas. Hein, Jonas, parce que toutes les idoles qu'on a abordé avec Abraham, avec Jacob, avec Léa, etc., c'est des idoles personnelles. Et quand on regarde autour de nous quelles peuvent être les idoles dans nos vies, peuvent avoir des idoles personnelles, comme ceux que j'ai mentionnés et d'autres, bien sûr, mais il y a des idoles culturelles. Et les idoles culturelles sont beaucoup plus difficiles à déceler parce qu'elles sont légitimées par la culture dans laquelle nous sommes. Et renier notre culture, en fait, c'est renier un petit peu notre vie et notre tradition et ce que nos pères nous ont transmis et ce que nos pères P-I-R-S aussi nous transmettent parce qu'on est solidaire en fait d'une culture. Et ça, c'est beaucoup plus difficile à déceler et plus difficile à abandonner. Parce que si vous abandonnez une idole culturelle, vous êtes mis en marge de votre société. Et ça, c'est très difficile. Vous vivez un rejet. Si vous abandonnez une idole personnelle, bon, vous pouvez vivre, entre guillemets, un rejet personnel, mais bon, voilà, ça ne change pas votre vie. Si vous savez que vous avez idolâtre de l'argent, vous abandonnez l'argent, bon, vous en prenez à vous-même. Mais si vous abandonnez une idole culturelle, waouh. Moi, j'ai osé le faire. À mon insu, j'étais catholique, mes parents étaient catholiques, ils étaient connus dans la ville, enfin voilà, une grande notoriété, tout ça, et il fallait qu'on soit parfait. Alors, moi je recevais des raclées à l'école, et quand je rentrais, double raclée, avec c'était pas de la rigolade, voilà, et voilà, parce qu'il fallait qu'on maintienne le statut de nos parents, voilà. Et quand j'ai accepté Jésus-Christ, comme sauveur personnel à l'âge de 20 ans, mais je suis devenu le paria de la famille. On m'a mis dehors, on ne voulait plus me connaître. Vous voyez, parce que je faisais la honte dans la ville à mes parents, qui étaient connus. Mon frère est né de 2 ans, non, 2 ou 3 ans, enfin, 2 ans et demi, je crois, parce qu'on n'est pas né au même moment. Enfin bref, dans ces eaux-là. Ah ben, à l'âge de 13 ans, il reçoit une vision. Dieu lui parle. 12 ans ou même quoi, voilà, une vision qu'il devait rentrer dans les ordres, devait être prêtre. Et donc, à 12 ans, mes parents l'ont mis au petit séminaire pour devenir prêtre. Et il en est sorti à 27 ans. Vous voyez, il fait toutes ses études de prêtre, petit séminaire, grand séminaire, tout ça. Et au moment d'être ordonné, hop, je me convertis. Oh, c'est une catastrophe dingue, dingue. Parce que le curé de mon village, enfin de ma ville, c'était une ville, hein, un peu comme Aubergenville, le curé, dès qu'il a su que je me suis converti, il a foncé voir l'archevêque, pas l'évêque, l'archevêque de Strasbourg. Il a dit, vous saquez son frère. Et quand mon frère avait un appel pour les jeunes, ils ont dit, vous le mettez dans un village, mais complètement paumé, dans, voilà, fin fond dans les Vosges, pour qu'il croupisse là, etc. Bon, il n'a pas supporté, parce que ce n'était pas sa vocation, hein, de croupir dans un truc, voilà. Et donc, ça fait des remues ménages dans ma famille, incroyable. Je suis devenu le mouton noir à abattre. Mais oui, c'est un prix à payer. Moi, j'ai dit non, je reste avec Jésus-Christ. C'est, voilà, j'ai ma... Mais dès que vous touchez aux idoles culturelles, vous déclenchez un séisme. Parce que vous mettez en cause la légitimité de ce que vos pères ont reçu. Vous voyez, c'est très très grave. Parce que vos pères, enfin père et mère, hein, parents, etc., ils ont vécu pour ça. Ils ont cru à ça. Ils ont mis toute leur énergie à ça. Ils ont, je sais que ma mère s'est fiancée avec mon père et il y a eu la guerre. Et ils ont attendu 10 ans. 10 ans. Ils sont restés fidèles 10 ans. En étant éloignés à plus de 1500 kilomètres. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est fondateur de leur couple, qui sont restés, pour nous, c'est des modèles. Hein, ça a toujours resté des modèles. Mais tout ça, moi, je l'ai détruit. Moi, je l'ai détruit. Parce que je n'ai pas suivi leur foi, je n'ai pas suivi leur tradition, je n'ai pas suivi leur exemple, vous voyez. Et donc, c'est un prix très, très important à payer. Il faut être prêt à le payer, c'est pas sûr. Ma sœur, qui régulièrement vient ici, Christiane, elle dit encore aujourd'hui, j'étais incapable de faire ce que tu as fait. Elle voulait le faire, hein, mais c'est pas possible. Elle dit non. J'ai incapable, tu as payé trop fort le prix. Elle ne pouvait pas. Parce qu'elle savait, elle voyait, hein, comment je me faisais attaquer et tout ça, et elle a reculé, parce qu'elle était prête, etc. Mais bon, elle aime le Seigneur quand même à sa manière, mais elle a beaucoup gâché sa vie. Vous voyez, c'est un prix à payer dans l'idole culturelle. Je voudrais revenir à l'idole culturelle. C'est très, très, très difficile de lâcher une idole culturelle. Alors Jonas, prenez Jonas. Pourquoi Jonas a eu du mal à suivre la mission qu'il a reçue? Pourquoi, à votre avis? Pardon? Il était patriote. Oui, toi, t'as lu mes notes, non? C'est exactement le mot. Alors développe. Ouais. De cette raison que Arnaud vient de développer. C'est dans 2 Rois, chapitre 14, verset 25. On ne va pas le prendre, mais vous pouvez le lire chez vous. Si vous lisez 2 Rois, chapitre 14, verset 25, vous verrez que Jonas avait demandé au roi de l'époque, Jéroboam, il lui avait demandé de poursuivre une politique militaire expansionniste pour étendre les frontières de la nation. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut lire attentivement la Bible pour bien comprendre le contexte dans lequel nous sommes. Là, Jonas, prophète de l'Éternel, est auprès, dans la cour auprès du roi et lui donne des conseils. Et qu'est-ce qu'il lui donne comme conseil? Il dit, ouais, Jéroboam, Dieu, il veut que Israël soit fort. Il a dit, je te donnerai cette nation, tout lieu que foulera ton pied, je te le donnerai, etc. Voilà, il est rentré dans toutes ses promesses. Donc, c'était biblique. Allô? C'était biblique. Et il lui conseille de dire, mais écoute, ce serait bien comme David, tu vois, David, voilà, c'est vraiment le roi d'Israël qu'il faut suivre. Ben, voilà, tu vois, nos frontières, là, ils ont été grignotées, il faut les reprendre. Voilà ce qu'il a dit au roi. Donc, vous voyez l'état d'esprit dans lequel il est. OK? Alors, ce qui est intéressant dans la Bible, c'est que vous prenez dans ce contexte-là deux autres prophètes qui s'appelaient Amos et Osée. au même moment que Jonas. Allô ? J'ai votre attention là ? Et qu'est-ce que eux ils disent ? Bah, ils disent le contraire. Waouh ! Deux prophètes disent le contraire. Amos et Osée, ils étaient contre la corruption de l'administration royale. Parce qu'en même temps qu'effectivement Jéroboam, eh bien, voilà, avait envie de d'étendre le royaume pour, bien sûr, montrer au peuple qu'il était roi. Hein. Napoléon, en son temps, l'a fait aussi. Hein. Voilà, parce que pendant que vous faites de l'expansion, en fait, vous pouvez taxer les gens parce qu'ils ont l'orgueil, la fierté que leur pays prend des positions. Vous voyez, c'est des techniques politiques. Hein. Voilà, comme ça, vous cachez la misère qui est chez vous et vous poussez les gens au front, etc. Donc, c'était la technique de Jéroboam. Et Osée et Amos, ils ont vu la corruption dans le palais royal. Ils ont dit, attends, ça, un homme de Dieu, peuple d'Israël, voilà, c'est très bien hein, de pouvoir dire, voilà, on va conquérir de nouvelles frontières, mais il faut aussi être correct dans son pays. Et donc, ils ont dénoncé la corruption de l'administration. Mais Jonas, lui, donne l'impression d'avoir délibérément ignoré les actes répréhensibles du roi, et il était plutôt un nationaliste zélé pour augmenter la puissance d'influence de son pays. Vous voyez, comme quoi, quand on est chrétien, il faut être équilibré. Équilibré. Si le Seigneur te dit, oui, il faut que tu étendes ton territoire, que ce soit dans ton entreprise, ton influence, bon, ok. Mais en même temps, il faut que tu sois correct dans ce que tu fais. Sinon, ça ne va pas. Le Seigneur, bien sûr, il veut que tu puisses t'étendre et que tu puisses réussir, mais en étant appuyé sur la parole de Dieu, en étant un homme et une femme de Dieu. Vous dites hello ? Hein ? Et vous voyez, parfois, il y a des prophètes qui vous poussent. Voilà, ah, tu seras riche, tu auras une belle femme, et tout ça. On a vu ça. Hein ? Et puis voilà, ça gonfle l'orgueil et tout ça. Et puis derrière, on fait n'importe quoi de sa vie. Mais ça ne va pas. Ça ne va pas. Mais il y a des églises qui l'acceptent. Hein ? Paraît-il, on m'a dit que dans le nord de Paris, il y a des églises où le pasteur dit à partir de. Enfin, ça a été dit, je ne veux pas dire qu'il le dit tout le temps. À partir de janvier prochain, je ne veux voir dans le parking que des Mercedes et des BMW. Voilà. Voilà. Alors, toi qui as le SMIC, tu te débrouilles, tu fais un emprunt à la banque, parce qu'il faut montrer que les chrétiens sont bénis. Ouais. Non, mais c'est authentique. Et, alors, prospérité, machin, etc. Et derrière, corruption. Bon, bah, oui, vous faites des emprunts, vous débrouillez, quoi. Débrouillat, pas péché, quoi. Bon, ok, ça existe, ça. Ah, j'ai retenu, hein. Culture antillaise. Là, on justifie. Débrouillat, pas péché. Voilà. C'est débrouillardise, quoi. Voilà, vous débrouillez. Voilà. C'est biblique, ça? Ben oui, mais ça existe. Hein. Attention à la culture. Hein. Ça justifie certaines choses. Donc, Jonas était dans cette optique-là. Voyez. Il dit, non, ce qui est important, c'est qu'on conquiert, on aille de l'avant, on aille de l'avant. Bon, voilà, on ferme un peu les yeux, hein, Jéroboam. Bon, voilà, il est humain. Il est humain. Moi, je suis humain, donc on accepte les compromis. Okay. Eh bien, un tel prophète, comme Jonas. Alors, ce qui est étonnant, c'est que Dieu, vous voyez, Dieu nous prend toujours à, voilà, comment on dit ça, ouais, par Bruce Paul, mais un petit peu ça, voilà, il prend toujours contre-pied, voilà. Je ne comprends pas pourquoi Dieu n'a pas choisi Amos et Osée, quoi. Attends, c'était bien, quoi, ces gars-là, ces prophètes-là. Pourquoi il choisit Jonas ? Est-ce que Dieu est aveugle ? Il a pas vu qui est qui ? Ouais, vous voyez, parfois Dieu nous surprend. Il aurait pris ses autres prophètes, il n'y aurait pas eu de problème, ils auraient fait la mission. Mais il demande à Jonas, le prophète, qui lui, dans sa culture, il était dans une culture d'expansion du royaume, eh ben, effectivement, Jonas n'a pas pu accepter cette mission, quoi. Il disait au roi, il faut les détruire. Et Jésus dit, bah, tu vas maintenant leur prêcher la repentance pour qu'ils se repentent et qu'une fois qu'ils sont bien, voilà, ils vont vous attaquer. Enfin, c'est ce qu'il pensait. Et donc ça allait à l'encontre de sa stratégie. Et oui. Et souvent les cultures, et les idoles culturelles vont à l'encontre de notre stratégie. Regardez la mère Potomitan. Ah, tu n'étais pas là, mais ta femme était là. J'ai appris ça ce matin. Super, je l'ai vue là. Voilà. Mais le Seigneur va toucher son cœur. La femme Potomitan, pour certains Antillais, et maintenant, d'ailleurs, elle l'a pas dit, Cosette, mais j'ai cru comprendre la dernière fois que dans la culture actuelle, les poètes, tout ça, la musique, tout ça, mais c'est en valeur, quoi. Hein, c'est une mise en valeur, voilà. Donc, vous voyez, on met en valeur cette idole, quoi. Voilà, ça devient une idole, quoi. Voilà. Alors que Cosette a dit, c'est l'horreur, quoi. Femme Potomitan, une mère Potomitan, et détruit complètement ses enfants. Elle les détruit. Elle leur interdit d'avoir un avenir. Je ne vais pas vous expliquer toute la soirée, ça a duré 2 heures, mais vous pouvez l'écouter sur Internet. Pourquoi c'est dangereux, ouais. Et donc, vous voyez, les idoles, on les fait briller. Vous avez déjà vu les idoles, les statues, tout ça, on les astique, quoi. Et des femmes qui viennent, ah oui, il ne faut pas de poussière dessus, parce qu'il faut les baiser, même les idoles, tout ça. Et voilà, il faut que ça devienne brillant et tout ça, ouais. Mais on fait ça dans les cultures. On fait briller les idoles, quoi, de manière à ce qu'elles soient attirantes, quoi. Il faut les suivre, les idoles. C'est ça la culture. Donc dans chaque culture, il faut repérer les idoles. Et c'est l'objet de ce matin. Enfin, de ce que je vais essayer de tenter de vous expliquer. Alors, je voudrais revenir au 7 janvier 2015, là, c'est pas vieux. Qu'est-ce qui s'est passé le 7 janvier 2015 en France? Pardon? Charlie Hebdo. Charlie Hebdo est victime d'une attaque terroriste. La France et le monde entier, hein, puisqu'il y a des présidents de beaucoup d'États qui sont venus. On s'est plaint que les États-Unis ne sont pas là, mais ils sont rattrapés, ils sont venus un peu quelques jours après. Ils ont rattrapé le retard. Mais la Suède qui a suivi donc cette tuerie, il y a d'autres actes qui ont été faits dans le monde musulman, en Nigeria par exemple, et dont on n'a pas parlé. Vous le saviez? Voilà, c'est bien parce que vous écoutez avec discernement. Ah bah oui, en Nigeria, à cause de ça, du fait que tous les présidents ont dit voilà, on soutient la liberté d'expression de Charlie et tout ça, et puis qu'on a ressorti une caricature en plus pour remettre ça, eh bien il y a eu près de 70 églises Assemblée de Dieu, sans parler des autres, qui ont été brûlés, détruits, des trucs horribles, quoi. À cause de ça, hein, ça a été dit. Vous confirmez? Bon. Donc, c'est des fêtes. Le 24 mars, cette année, qu'est-ce qui s'est passé? 24 mars. Nous, on était à Toulouse. Et puis, un pasteur me dit, ah, tu sais ce qui s'est passé? Je ne savais pas, parce que je n'avais pas mon iPhone. 24 mars. Airbus, paf, qui se crache. Hein? Qui se crache là dans les Alpes. Un autre fait. Je relis les deux faits à la question de la dépression et son rapport à l'idolâtrie. Dans le premier événement, il s'agit de comprendre la réaction des Français qui s'identifient émotionnellement à Charlie, je suis Charlie, qui s'affiche partout, interdisant toute autre forme de slogan. Vous avez vu à la télé le premier qui essayait de mettre ça en cause, était flingué. Hein. Bon, là, il y a quelques semaines, il y en a qui commencent à pouvoir dire leurs pensées un peu différentes, mais c'était impossible à ce moment-là. Le slogan, chez Charlie, qui voulait dire quoi? Le symbole de la liberté d'expression. Ben, c'est une véritable idole en France. Pas qu'en France, mais particulièrement en France. Le sommet de la civilisation qui affiche la liberté. Liberté, c'est marqué partout. Hein. Allez dans les mairies. Liberté, j'invente rien. Hein. Bon, liberté, en soi, c'est une idole. Quand on l'élève à ce niveau-là. Donc, liberté d'expression, on la défend. C'est une véritable idole qu'on vénère. On brique. On la brique, là. On la baise. On veut qu'elle soit brillante. Liberté. Liberté, touche pas. Hein, mon pote, je veux la liberté. Une véritable idole qu'on nous vénère. Et qu'est-ce qu'elle va produire, cette idole? Parce qu'une idole, il faut savoir qu'une idole, elle a deux faces. Elle a une face qui est brillante, et l'autre côté, qui est sombre. Oui. C'est comme les démons. Un jour, il y a un pasteur qui a voulu libérer une femme qui se plaignait de choses comme ça. Et il a voulu prier. Il a dit, attends, tu chasses les démons blancs, mais pas les noirs. Les noirs, mais pas les blancs. Elle dit, ah bon ? Parce qu'il y a des blancs ? Ah oui, il y en a qui me font du bien. Donc je veux les garder. Le pasteur a dit, non, moi je chasse tout. Hein. Je ne connais pas la différence entre les blancs et les noirs. Mais une idole, elle a... Non, mais vous rigolez, mais c'est tout à fait vrai. Hein. Regardez ceux qui font du voodoo, et ils vous apprendront qu'il y a des blancs et des noirs. Donc, une idole, elle a une face brillante, mais aussi une face sombre. Donc, la liberté d'expression, elle a une face, bien sûr, superbe, mais derrière, quand on va la retourner, toute idole a une autre face, elle a deux faces. Mais on veut voir que la face brillante. Mais la face derrière, c'est la mort. C'est la dépression. Et la Bible dit, je n'ai pas le verset sous la main, mais je vous le donnerai si vous me le demandez. La Bible dit que toutes les idoles seront cassées sur la tête de l'idolâtre. Tac. Un jour, l'idole sera cassée sur la tête. Dieu casse les idoles. Oui, parce que c'est des idoles. C'est rien. C'est simplement une pensée qui est là pour suivre cette idole. Donc je reviens à ma liberté d'expression. Il y a une conséquence donc à cet affichage « Je suis Charlie » qui a déclenché les actes terroristes à répétition dans d'autres pays. Le deuxième événement que je reprends, l'Airbus qui se crache, a été le cas d'un pilote dépressif aussi, qui a entraîné la mort de 150 passagers innocents. C'est une conséquence très très probable d'un pilote dépressif, puisque même dans sa ville, son village, tout le monde a constaté qu'il était dépressif. Donc je voudrais vous montrer le mécanisme qui amène l'idole de liberté d'expression à la dépression. En France, pays la liberté d'expression, comme on a écrit en mai 68, j'étais à Paris à ce moment-là, enfin pas complètement Paris, mais j'ai passé à part Paris. Les jeunes qui voulaient défendre cette liberté, ont écrit sur les bouches de métro, il est interdit d'interdire. Voilà, c'est-à-dire on voulait une liberté totale. On en avait marre d'être contraint, et donc il est interdit d'interdire. Liberté totale. C'est un absolu. Et la Bible et le français et devient victime de son idéal de liberté, comme le dit la Bible, que l'idole est cassée sur la tête, parce qu'à un moment donné, il y a des conséquences. Et ces conséquences, je l'ai souligné tout à l'heure dans ce qui s'est passé dans des pays qui ont été agressés par ces actes de liberté de dire n'importe quoi sur le prophète Mahomet. Alors, cette idole que j'ai dit, qui a un côté sombre et un côté obscur et un côté de lumière, hein, entraîne toujours une désillusion. Parce que derrière l'idole, si vous voyez l'idole, vous voyez que la liberté d'expression, derrière la façon près d'exister, mais on ne la voit pas. Il faut faire le tour pour la voir. Et un jour, elle se retourne. Et c'est là qu'elle produit son effet. Donc, il y a toujours une désillusion de l'idole. Car on a l'espoir que pouvoir tout dire et n'importe quoi, n'importe comment, est une vérité absolue en soi qui donne la liberté. C'est une sorte de sauveur de la civilisation. Mais on oublie, et on veut rester dans le déni là-dessus, c'est pour ça que les médias interdisent de dire le contraire, hein, que le respect des autres est aussi une valeur. Est tout aussi importante à respecter. D'ailleurs, les premières personnes qui vous interdisent de dire ça, ils veulent être respectés. Ça me fait penser à cet architecte qui est venu à Saint-Martin-la-Garenne, où Michel était premier adjoint. Et puis, en pleine réunion, il dit au maire, vous savez, là-bas, il y a une maison, il faudrait la détruire. Parce que, voilà, elle est à côté de la Seine, elle est toute seule, tout ça, c'est bon. Elle est moche. Le maire a dit, mais c'est ma maison. Et c'est pas dégonflé, hein. Il s'est pas dégonflé. Il a dit non, il faut la détruire. Voilà. Bon, il hésitait un petit peu, hein, mais voilà. Mais il a maintenu. Mais si ça se trouve, on n'a pas vérifié, hein, mais si ça se trouve, ce gars-là, il a une maison, comme ça. Mais si on touchait à sa maison, il ne le dirait pas. Vous voyez, on est toujours. C'est l'égoïsme. Hein, ouais. Et là, c'est pareil. C'est que. Voilà, l'idole est tyrannique. Elle empêche d'être empathique. L'idole ne donne pas l'empathie. Jésus donne l'empathie. Jésus, il nous aime et il nous donne l'amour pour les autres. Mais l'idole, non. Elle est tyrannique par nature. Pourquoi ? À cause des démons qui sont derrière. Alors ça, c'est l'enseignement de Paul. Paul, il dit, voilà, les idoles sont rien. C'est rien. Liberté d'expression en soi, c'est rien. C'est les démons qui sont derrière, qui sont dangereux. Et les démons, bien sûr, ils produisent la destruction, la mort, comme Satan. Hein. Il est là pour détruire, pour tuer, pour voler, etc. Et c'est ce que font les démons qui sont derrière les idoles. Donc ce qui fait que le français est plongé dans une désillusion permanente. C'est le problème du français. C'est qu'il est très idolâtre, c'est-à-dire très idéologique. Hein. C'est plus joli d'avoir une idéologie qu'une idole, mais c'est la même chose. C'est le même mot, la même racine. Hein. Idole, idée, voilà, une idée d'une civilisation parfaite. Mais du coup, il est toujours dans la désillusion, dans l'espoir déçu en permanence. C'est ça, le problème de fond. Du désespoir du français, de la désespérance, c'est qu'il veut joindre les deux choses en même temps, les deux contraires. Et ça, c'est l'esprit français, c'est l'esprit de Mercure, si vous voulez, de cet esprit qui est venu de la Grèce antique, qui est l'enseignant satanique hein, de Mercure. Et les conséquences de la dépression peuvent être catastrophiques, car on ne maîtrise plus ce qu'on fait. Voilà, au palmarès des pays les plus pessimistes, les plus dépressifs, sont la France, qui a la palme d'honneur, et on y consomme plus d'anxiolytiques au monde. Le français est connu pour présenter des symptômes de schizophrénie, une ambivalence entre garder les acquis et avancer en même temps. Vous avez vu qu'à chaque fois qu'on veut une réforme, bah, tous les gouvernements se cassent la figure, hein, que ce soit de gauche ou de droite. C'est pas possible de faire des réformes en France. Pourquoi ? Parce qu'on veut garder les acquis. Vous voyez, les cheminots qui conduisaient les trains à vapeur. Hein, moi, j'avais la sœur de ma mère était mariée à un cheminot. Bah, il est mort à 32 ans et s'est marié. 2 ans après, il est mort. Quoi. Voilà, parce qu'il avait attrapé froid sur le chemin à vapeur. Enfin, sur le train à vapeur, c'était une condition très très difficile. Hein. Il fallait remplir le charbon, la machine en plein dans la vitesse du train et tout ça. Quoi. Donc, pneumonie, machin et tout ça. Bon, c'est normal que les cheminots demandaient la retraite à 55 ans. Ils étaient complètement à plat. Mais aujourd'hui, qu'ils appuient sur un bouton automatique, tout ça, TGV, bah, ils réclament toujours leur truc. Oui. Pardon ? La prime de charbon, elle existe encore. Il n'y a plus de charbon. Hein. La prime de charbon, on l'a gardée. Moi, quand j'ai fait de l'ergonomie, il y a le prof, enfin, il m'a dit, voilà, les contrôleurs aériens, vous savez, les contrôleurs du ciel, là, c'était extrêmement stressant quand ils ont commencé les premiers avions. Il y a 40 ans, ils avaient des règles à calcul, des machins, des trucs. C'était dingue. En 5 minutes, il fallait faire atterrir une dizaine d'avions qui ne devaient pas se rentrer dedans, tout ça. C'était stressant au point où ils devaient les arrêter régulièrement parce qu'ils n'en pouvaient plus. Quoi. Et donc, ils ont eu des primes comme ça, de congés. Quoi. Au point où ces fameux contrôleurs, encore aujourd'hui, hein, ils ont 6 mois de congés. Donc, ils travaillent 6 mois, ils ont 6 mois de congés pour se reposer. À cause de ça. Alors imaginez-vous que pendant ces 6 mois, bah, toute leur vie, hein, 6 mois de travail, 6 mois de congé, bah, ils ne savent pas quoi faire. Donc qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont en Afrique, ils vont faire des safaris, il faut ils font guide de safari, machin. Enfin, la plupart du temps, c'est ça, ce qu'on m'a dit. Hein, voilà, pour passer du temps. Mais quand ils reviennent, bah, ils ont oublié leur métier. Donc il faut qu'on les reforme. Vous voyez ? Ça en arrive là. Voilà. L'aberration de garder les acquis. Alors qu'aujourd'hui, c'est juste des trucs informatiques. Hein. C'est les avions, tout ça, heureusement. C'est plus la règle à calcul parce que je n'irai plus dans un avion. Hein. J'étais une fois à Los Angeles, que j'ai vu que la piste traversait, puis un avion qui venait, où je dis, où est-ce qu'on est, quoi hein. Ouais. Ça fait peur. Non, aujourd'hui, c'est les ordinateurs et tout ça qui gèrent tout ça. Hein. Mais ils ont toujours la prime des 6 mois. Eh oui. Et il ne faut surtout pas y toucher. Hein. Parce qu'ils vont faire grève, ils vont tout bloquer. Hein. Ça, c'est la France. On veut avancer, mais on veut garder les acquis. Et c'est ça qui donne la dépression. Vous voyez, on veut réunir les contraires. On veut réunir les contraires. Et ça, c'est lié à l'idole culturelle. L'idole culturelle. Donc, forcément, ça met la dépression. Parce que c'est du surplace. On s'oblige du surplace. Vous avez déjà essayé dans toute votre vie de faire du surplace et que ça ne vous donne pas le blues? Hein? Je vais dire, attends, tu fais rien toute la journée et tu fais du surplace. Et c'est ça, le français. Donc s'identifier à Charlie qui ne respecte pas les autres en notre liberté, tout en adhérant pas forcément au contenu de son éditorial, j'ai entendu ça, voilà, etc. On veut tout. Alors, je ne vais pas uniquement taper sur les Français, toutes les cultures ont leurs idoles. Regardez l'Amérique. Alors, Alexis de Tocqueville, c'était quelqu'un qui a été envoyé par Louis XVI, à l'époque, avant qu'il soit. Voilà. Il était envoyé là-bas avec Lafayette, avec enfin, des grands, grands noms, hein, des noms très illustres qui étaient les parlementaires, etc. Il était envoyé aux États-Unis pendant plusieurs années et il est très aimé des Américains parce qu'il a écrit beaucoup sur l'Amérique. Et voilà ce qu'il dit. Dans les années 1830, il consigne dans ses célèbres observations sur l'Amérique la mélancolie singulière des Américains. Font souvent voir au sein de leur abondance. Il a vu l'abondance là-bas, contrairement à la France de l'époque, mais il a vu la mélancolie. Ils sont mélancoliques. C'est ce qui nous ramène. Et les Américains, pourquoi ? Parce qu'ils croient à la prospérité et que la prospérité va combler leur désir de bonheur. Mais un tel espoir est illusoire. Prospérité pour la prospérité, c'est une idole. Donc la Constitution américaine, vous savez que la Constitution, c'est le plus haut niveau du statut, du droit d'une nation. Donc la nation dit, je veux vivre comme ça. Et dans la Constitution américaine, c'est marqué, pursuit of happiness. Il faut poursuivre le bonheur. Voilà. Donc quand vous recherchez le bonheur comme ça, dans une civilisation, c'est une idole. C'est une valeur qu'on veut rechercher absolument. Donc, ces deux pays, que ce soit la liberté d'expression ou la recherche du bonheur, vont amener des problèmes à terme. Prenons le Japon. C'est quoi le problème du Japon ? Vous avez déjà vu la constitution du Japon ? Il faut lire les constitutions. C'est comme ça qu'on comprend les choses. Hein. Si vous lisez la constitution française, vous comprenez pourquoi on est tout le temps en grève. C'est marqué « droit de grève ». Et c'est la seule, c'est la seule constitution au monde qui a écrit ça. Vous comprenez beaucoup de choses, hein ? Il faut toujours aller au droit. Vous avez droit. Parce que si vous avez droit, les gendarmes ne peuvent pas vous arrêter. Vous pouvez dire, constitution oblige. Tac, droit de grève, ok, je ne peux pas y toucher. Tant que c'est dans la constitution. Qu'est-ce qui est marqué au Japon ? Constitution. Donc, aux États-Unis, c'est marqué pursuit of happiness. Donc, si vous cherchez le bonheur. Pas de problème, personne ne peut vous arrêter. Hollywood et tout, voilà, je cherche le bonheur. Pour le bonheur, c'est bon. Au Japon, qu'est-ce qui est marqué ? Rechercher l'information. C'est marqué ? Ben oui. L'information. Pour être fort, pour être le premier. Ils veulent être le premier. Moi, quand j'étais encore à l'aérospatiale, on recevait des Japonais. Et puis un jour, on s'est aperçu, parce qu'il y avait des petits malins qui regardaient ce qui se passait. Ils venaient, et puis le soir, dans leur chambre d'hôtel, ils enlevaient les chaussures, ils avaient des petits copeaux, ce qui marchait comme ça, on va présenter, des petits copeaux qui restaient dans le fond, ils les analysaient au microscope, et ils voyaient avec quelle matière on faisait Ariane, avec le titane, les compositions et tout ça, vous voyez, c'est des petits malins. Et partout, chaque Japonais doit chercher l'information, c'est un droit, un devoir. Donc après, vous vous étonnez pas qu'ils copient toutes les... Tout ce qui est dans le monde. Et puis après, ils sont aussi intelligents que tout le monde, mais sauf qu'ils ont l'information de tout, et ils n'ont pas besoin de déposer les brevets. Après, ils déposent les brevets, parce que les Français ne déposent pas de brevets, ils sont tellement bien, tout ça, ils sont intelligents. Donc voilà, ils réinventent autre chose, et ils déposent très peu de brevets. Au Japon, tout est breveté. Parce que, tac, ils veulent produire, ils veulent être les meilleurs. Mais qu'est-ce qui se passe au Japon ? La contrepartie de l'idole. Mais ils se suicident quand ils ne sont pas les meilleurs. Et déjà à l'école, il y a des enfants de 8-9 ans qui se suicident parce que quand ils voient le bulletin et ils disent « ça, je ne peux pas montrer ça à mes parents parce que je ne suis pas le premier », ils se suicident. Vrai, hein ? C'est vrai ? Vous voyez, l'idole, elle a deux parties. Elle a une face qui est très brillante. Ah, on est les meilleurs du monde, hein ? C'est vrai que les Japonais, économiquement, rien à dire. Le yen, il tient et tout. Mais derrière, bah, je me suicide si je ne suis plus le premier. Vous voyez, toute idole culturelle, c'est pour ça qu'il faut les déceler, eh bien, ont deux faces. Ils veulent être les plus performants au monde, mais il y a un prix à payer. Un prix à payer. Alors, le livre que j'aime bien, Timothy Keller, ce pasteur de New York, il écrit dans son livre la définition de l'idolâtrie et il s'appuie sur les écrits d'Alexis de Tocqueville, vous voyez, un Américain, qui prend en français comme référence pour définir spirituellement l'idole. Et voilà ce qu'il dit. La mélancolie et le désespoir s'abattent sur nous lorsque nous bâtissons toute notre vie sur des joies incomplètes de ce monde. C'est bien dit. Le monde nous donne de la joie, mais incomplet. Jésus seul peut nous donner la joie sans qu'il y ait de contrepartie, sans qu'il y ait de choses négatives. Voyez. Parce que Dieu est bon et sa bonté durera toujours. Alors qu'avec le prince de ce monde, quel est l'objectif du prince de ce monde? Voilà. Et comment est-ce qu'il le fait? Par l'idole. Par l'idole. Et l'idole, alors celle-là que je vais vous définir, vous la connaissez bien d'ailleurs, elle est universelle. C'est-à-dire elle n'est pas française, elle n'est pas japonaise, elle n'est pas américaine, elle n'est pas sud-américaine, elle n'est pas indienne. Elle est universelle. Partout, 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 c'est la même idole. C'est quoi? C'est la fusion des contraires. C'est l'union du bien et du mal. Ça vous dit pas quelque chose? L'arbre du bien et du mal? Mange de ce fruit. Parce que toutes les idoles, elles mélangent le bien et le mal. Et quand on mélange le bien et le mal, on obtient ces idoles. Oui. Et à la lumière de ces modèles d'idoles, vous pouvez tout expliquer. C'est un calque, vous mettez dessus.